Bonsoir. La situation sanitaire est préoccupante dans plusieurs prisons de la RDC. C'est ce qu'affirme le directeur de la division de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO, qui évoque notamment des cas de maladies liées au manque d'hygiène dans ces prisons. Selon ce dernier, la MONUSCO plaide pour une réforme en profondeur du système pénitentiaire congolais. Quelle analyse faire de cette déclaration et que faire pour améliorer les conditions carcérales en RDC? Nous en parlons avec M. Youssoufa Ndiaye, il est chef de la division État des droits à la MONUSCO. Bonsoir M. Youssoufa Ndiaye.
Oui, bonsoir. Juste pour rectifier, je suis chef de la section pénitentiaire de la MONUSCO.
Merci pour la rectification. Maître Jean Bouillou, cadre de la majorité présidentielle et ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Bonsoir Maître Jean Bouillou. Voilà, il va nous rejoindre. Maître Rufin Louko, il est avocat et chercheur en droits humains. Bonsoir, Maître Rufin Louko.
Bonsoir, Monsieur Guimatel.
Plusieurs réactions, parmi lesquelles celle de Kassamba de Bounia en province orientale. La détérioration de la situation dans les prisons de la RDC n'est que le corollaire de la détérioration généralisée du social congolais. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La situation sanitaire est préoccupante dans plusieurs prisons de la RDC. La MONUSCO plaide pour une réforme en profondeur du système pénitentiaire congolais. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Kinshasa le directeur de la division de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO. Au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, Charles-Antoine Bambara a affirmé que la MONUSCO appuie les autorités congolaises pour faire face aux différents problèmes que connaissent les prisons congolaises. On écoute Charles-Antoine Bambara dans cet extrait proposé par Michel Kifindangoy.
La situation sanitaire est préoccupante dans les prisons de Kasapa à Lubumbashi, à Bunia et à Goma, et des cas de maladies liées au manque d'hygiène ont été enregistrés. Un appui pour faciliter l'accès aux soins a été fourni par les partenaires aux prisons de Goma, Bukavu et Kalemie pendant cette dernière semaine. Par ailleurs, les prisons de Mahagi et Kabare au sud Kivu et celles d'Aru et de Bunia en Ituri ont vu un manque de nourriture alors que des cas de malnutrition ont été enregistrés chez les prisonniers dans d'autres prisons du pays. La MONUSCO continue donc son plaidoyer auprès des autorités congolaises pour qu'une réforme en profondeur du système des prisons soit menée en République démocratique du Congo. De l'autre côté, les équipes spécialistes de la MONUSCO sont en train d'étudier la possibilité de réhabiliter donc la prison de la ville de Kisangani, de reconstruire celle de Shabunda au sud Kivu en collaboration avec les autorités provinciales.
Vive tension ce jeudi à la prison centrale de Mbandaka. Les détenus ont cassé les portes de la prison et ont réussi à prendre en otage les directeurs de cette prison centrale. Ils revendiquent les mauvaises conditions de détention et les retards des traitements de leurs dossiers par la justice. Le ministre provincial de la justice qui est descendu sur les lieux n'a pas réussi à les convaincre. Dans ces dossiers, certains ont tenté de s'évader de la prison. Henri Lomondo pour les détails.
La tension reste étendue à la prison centrale de Mbandaka. Plus de 200 prisonniers, hommes et femmes, s'insurgent contre les mauvaises conditions de leur détention. Pas de nourriture, pas d'eau potable, ils ne bénéficient pas non plus des soins médicaux et manquent d'installations hygiéniques. La plupart d'entre eux dorment à même le sol. Autre revendication, le retard de traitement par la justice de leur dossier. La plupart des détenus totalisent 3 ans, voire plus, sans jugement. Ils ont cassé les portes avant de prendre en otage le directeur de la prison. Certains détenus se sont maquillés des excréments avant de se déshabiller complètement. Pour le ministre provincial de la justice qui est descendu sur le lieu, c'est depuis novembre 2013 que la prison centrale de Mbandaka n'est plus subventionnée. Une situation qui nécessite l'attention tant des autorités nationales que provinciales, a déclaré le ministre provincial de la justice. Henri Lobondo-Bokelou, Mbandaka, Radio Okapi.
Youssoufa Ndiaye, vous êtes chef de la section pénitentiaire de la MONUSCO. Vous avez fait l'état des lieux des prisons de la RDC et dans un rapport mapping que vous avez élaboré en octobre 2013, vous affirmez que la situation sanitaire est préoccupante dans plusieurs prisons de la RDC. Quels sont les faits sur lesquels vous étayez vos affirmations?
Oui, en réalité, le mapping, c'était, si vous voulez, un recensement de la situation pénitentiaire à RDC. Il a consisté à passer en revue l'ensemble des établissements pénitentiaires de la République et l'ensemble des détenus, ainsi que il a permis de faire l'état des lieux des établissements pénitentiaires. Si on parle de mapping, ça se réfère beaucoup plus à des données statistiques, à des données chiffrées, beaucoup plus, si vous voulez, qu'à une analyse. Mais du point de vue de l'analyse, je reviendrai tout à l'heure, bien entendu, sur le mapping. La situation qui a été décrite tout à l'heure, qui se passe à la prison de Bandaka, n'est pas isolée en réalité. Se réfère, si vous voulez, à la nécessité de capacité ou de renforcer les capacités justement du système de justice de façon générale et en particulier de l'administration pénitentiaire.
Oui, vous avez dit que ces rapports se basent sur des données chiffrées. Quelles sont ces données?
Oui, nous avons pu établir avec précision, à la suite de ce mapping, qu'il y avait 227 prisons en République démocratique du Congo, dont 120 sont fonctionnelles et 107 non fonctionnelles. Évidemment, le mapping va plus en profondeur. Il a permis non seulement de déterminer le nombre de prisons et le nombre de prisonniers, mais aussi de faire une analyse beaucoup plus fine de la situation pénitentiaire. Si, par exemple, de façon générale, on entend dire qu'il y a une situation de surpopulation pénitentiaire en RDC, ce qui n'est pas vrai. Parce que si l'on regarde l'ensemble du système pénitentiaire, nous avons recensé dans le cadre de ce mapping quelque chose qui tourne autour de 25 000 détenus pour la République démocratique du Congo. Et l'analyse nous donne que si effectivement il y a une situation de surpopulation pénitentiaire insupportable à Makala, à la prison militaire de Nolo.
Makala qui devait avoir en principe 500 à 600 personnes et qui aura aujourd'hui 5 000 à 6 000 prisonniers.
Oui, Makala était prévu pour 1 500 places. Et cette prison en compte aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, 6 801 détenus.
Ça fait une situation de surpopulation.
Oui, et puis c'est effectivement une situation de surpopulation qui est insupportable, qui tourne autour d'un taux de 300%.
C'est un cas particulier à Makala.
Oui, oui, parfaitement. Parce que c'est-à-dire, généralement, on s'arrête sur des clichés à des endroits précis.
Mais c'est Kasapa.
La prison de Kasapa aussi connaît une situation de surpopulation. Mais si vous regardez une province comme le Maniema, qui est grande comme la Tunisie, elle tourne autour de 200 détenus. Manifestement, il y a une sous-population dans cette province-là. Je pourrais revenir plus en détail dans les chiffres sur le nombre de détenus qu'il y a dans cette province.
Et cette prison de Maniema a quelle capacité d'accueillir?
Il y a 8 prisons dans la province de Maniema, et sur les 8 prisons, on tourne dans l'ensemble autour de 200 détenus, ce qui est quand même extrêmement faible pour une province aussi grande. Et pour revenir sur Makala et sur Nolo, ces deux établissements totalisent à eux 8 473 détenus à la date d'aujourd'hui. Ce qui équivaut, en rapport avec les places disponibles, à un taux de surpopulation de 323,65%, ce qui est un taux de surpopulation inacceptable, qui est vraiment très 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 grand par rapport à ce qu'on pourrait accepter, même si dans ce domaine, il est très difficile de parler d'acceptable en matière de surpopulation parce qu'on parle de personnes qui sont gardées.
Voilà, vous avez parlé des maladies liées au manque d'hygiène et nous savons que vous effectuez souvent des visites dans toutes ces prisons. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous tirez la sonnette d'alarme alors que vous êtes censé être au courant de cette situation depuis toujours?
C'est aujourd'hui qu'il y a eu ce communiqué, mais la situation n'a jamais cessé d'être reportée aux autorités compétentes. Et jamais la MONUSCO, et en particulier la section pénitentiaire de la MONUSCO, n'a cessé de reporter à qui de droit cette situation difficile à l'intérieur des prisons.
Et donc la passerelle existe entre votre structure et les gouvernements congolais, mais le gouvernement congolais ne réagit pas.
Écoutez, absolument, nous sommes une mission au Congo, il y a forcément, parce que nous travaillons sous l'autorité et selon l'orientation qui a été définie par les autorités. Donc il y a forcément une passerelle, il y a forcément un dialogue entre nous et les autorités, parce que ce sont les autorités qui définissent les priorités et qui donnent les orientations, et nous venons en appui justement à ses priorités et à ses orientations.
Maître Jean Bouyou, vous êtes cadre de la majorité présidentielle. Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là. Maître Ruffin Louko, vous êtes analyste et chercheur en droits humains. La situation sanitaire est préoccupante dans plusieurs prisons de la RDC. Et comment vous analysez ces rapports mapping de la MONUSCO?
Bon, merci pour l'invitation. C'est une situation connue, autant par les gouvernements congolais et en particulier par la MONIQUE, aujourd'hui devenue MONUSCO. Bon, je suis d'ailleurs affecté de voir que c'est la MONUSCO qui dénonce maintenant, parce que depuis qu'elle est là, elle connaît la situation. Et en particulier...
Mais elle dit qu'elle a toujours dénoncé, mais apparemment du côté
en particulier, la dernière résolution qui a prolongé le mandat de la MONUSCO dans notre pays a donné des obligations pour renforcer ou appuyer le gouvernement dans le renforcement de la justice et l'administration pénitentiaire. C'est bien clair dans la résolution.
Et c'est ce qu'il dit dans ses rapports.
Bon, non, c'est-à-dire... La chose principale, c'est que sur cette question-là, la MONUSCO, autant qu'on évalue le gouvernement, la MONUSCO doit être évaluée par rapport à sa contribution dans la réalisation de ses obligations, n'est-ce pas, investies par résolution des Nations Unies dans leur mission en RDC. Je suis étonné de voir que la MONUSCO dénonce et plaide pour un plaidoyer pour une réforme en profondeur du secteur pénitentiaire.
Voilà.
Mais cette réforme a commencé depuis 2006 à 2009. Cette réforme est en cours. Et elle a été butée à quoi? Chaque fois qu'on s'est rencontrés, rappelez-vous la fonction que j'occupais, chaque fois qu'on s'est rencontrés, dans des réunions tripartites.
Vous occupiez les fonctions des conseillers juridiques.
Et porte-parole du ministre de la Justice.
Voilà.
Chaque fois qu'on s'est rencontrés dans des réunions, en ce qui concerne l'action commune entre les gouvernements, les agences des Nations Unies, qui sont pilotées toutes par la MONUSCO en RDC, eh bien, nous sommes bités à la gestion des financements. Donc, il y a beaucoup de financements qui ont été envoyés, et, n'est-ce pas, pour appuyer la réforme. Donc, je parle uniquement de la réforme pénitentiaire.
La gestion des financements.
Alors, cette réforme,
pour
vous en parler, vous dites.
C'était la fête de qui? La gestion des financements. Qui gère les financements?
Ce sont les agences. C'est la MONUSCO principalement. Et il y en a d'autres qui gèrent ces financements, notamment CICR et consorts, OCHA et consorts. Mais principalement géré parce que tout cet ensemble, lorsque vous voyez donc l'accord de siège entre nous, le gouvernement congolais et la MONUSCO, c'est la MONUSCO qui gère toutes les agences. Et nous avons eu la difficulté, n'est-ce pas, parce que la réforme a tourné autour, n'est-ce pas, comme nous avions presque une prison dans chaque territoire de la République, c'est pourquoi nous en dénombrons plus de 200 prisons, parce qu'au moins dans chaque territoire il y avait une prison, et il y a même des territoires plus vastes où il y avait deux ou trois prisons, comme le territoire de Lubero, le territoire de Bafassende, à l'époque. Mais parce qu'on ne pouvait plus réhabiliter toutes ces prisons. Vous dites?
Les statistiques là, c'est de quelle année?
D'abord en 60 et puis récemment ici en 2000. En 2000, donc nous avions toutes ces prisons, c'est vrai, beaucoup étaient déjà détériorées totalement et à l'abandon. Mais parmi elles, nous avions environ plus de 150 qui étaient encore opérationnelles. Et dans les 150 opérationnelles, celles qui avaient des détenus dedans, il y avait environ 100 à 120 prisons où il y avait des détenus dedans. Et dans les 120 prisons environ où il y avait des détenus dedans, les prisons où il y avait une administration qui répondait, était environ moins de 50. Une administration, ça veut dire une administration administrative, si on doit me permettre la tautologie, une administration sanitaire et une administration notamment de resocialisation, parce que dans la plupart de nos prisons, il y avait des enjeux pour permettre, n'est-ce pas, à nos prisons d'apprendre des métiers. Beaucoup sont tombés presque en panne. Alors, l'administration, donc la réforme pénitentiaire tournait d'abord à la réhabilitation des prisons qui devaient l'être et à la construction d'autres. Et on avait estimé que dans ces plans de la réforme, qu'on ne puisse plus avoir des prisons dans chaque territoire, ça avait une connotation plus ou moins tribale, j'ai dit plus ou moins, mais d'avoir des régions pénitentiaires donc, à l'est du pays, au nord, une prison, et cela devait être installé et construite à Bounia, au sud, vers la province du Chaba ou du Katanga actuellement, une autre prison, au centre une autre, et à l'ouest plutôt, des principales prisons, à telle enseigne que ça nous permettrait le brassage des détenus, ça veut dire le transfert de prisonniers, ceux qui sont condamnés à l'est du pays, qu'ils aillent purger leur peine, et ça nous éviterait, entre autres, ça nous permettrait d'éloigner les évasions, parce que les détenus qui quittent le Bas-Congo pour aller purger leur peine à Isiro, ça serait difficile, ou à Bounia, ça serait difficile pour eux, n'est-ce pas, de s'évader facilement parce qu'ils ne connaissent pas le
problème. Et ce stade des réformes devait être réalisé par qui?
Par le gouvernement et les partenaires. Par le gouvernement, par exemple, la prison pilote de Bounia devait être construite par des Japonais. Bon. La prison pilote de Kananga, celle-là devait être construite par l'Union Européenne. Comme Ndolo ici, vous avez vu comment Ndolo a été réhabilité. Donc, il y avait différentes lignes budgétaires qui devaient nous aider, n'est-ce pas, à soutenir cette réforme. Mais c'est faux, nous avons été libérés. Et si cette question-là, en principe, notre gouvernement, notre parlement aurait dit, ne fût-ce qu'évaluer la MONUSCO par rapport à cet aspect, si on peut être juste de parler de cet aspect-là. Nous avons été bités jusqu'aujourd'hui au problème. La situation que vous venez de donner dans votre reportage de Mbandaka. Mbandaka, depuis longtemps, on a dénoncé à Mbandaka que nos prisonniers n'y restent qu'ils veulent. La prison de Mbandaka, donc d'ailleurs je suis étonné d'apprendre qu'il y en avait déjà plus de 200. Parce qu'il y a quelques mois ici où il y avait moins de 20 personnes.
Merci.
Alors pour dire tout simplement en conclusion, Guy, que la question est tellement sérieuse, il ne faut pas la prendre en termes de marketing pour dire tout simplement que non, les prisons sont lamentables. C'est une situation connue. Le gouvernement a déjà commencé cette réforme, mais a été évité au problème. Toujours les conditionnalités, parce que tous ceux qui ont dit que non, ils vont donner. Mais lorsque vous arrivez à la question de libération des fonds, vous trouvez tout le monde conditionnalité.
Et dans ces réformes, la part du gouvernement, c'est quoi?
La part du gouvernement?
Voilà.
D'abord,
sur le plan financier.
Le plan, non, le gouvernement, c'est vrai, le gouvernement libère ce qu'il a comme moyen. Libère ce qu'il a. Bon, évidemment.
Il libère avec combien à peu près?
Bon, à l'époque, vers les années 2011-2012, non, c'était moins d'1%, c'était moins d'1% du budget national consacré, n'est-ce pas, à cette réforme.
Ce qui est
il n'y avait pas assez. Parce qu'il fallait évidemment soutenir les plantations qui devaient être dans la périphérie de ces prisons-là, n'est-ce pas, et qui devaient permettre la prise en charge et l'autosuffisance alimentaire de tous les détenus pour qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes et procéder, n'est-ce pas, à quelques commerces et nourrir les cités voisines. Merci. Par les prisons.
Monsieur Youssouf Ndiaye, fallait-il évaluer la MONUSCO par rapport à sa mission dans ce secteur des prisons, comme le propose Maître Ruffin Loukou?
Ah, mais oui, moi je pense que dans tout système, il doit y avoir un système de checks and balances, il doit y avoir des contrôles.
Ça peut être
mais je voudrais revenir un peu sur certains propos que je viens d'entendre. D'ailleurs, je suis tout surpris de ne voir ce monsieur qu'aujourd'hui, parce que moi, depuis 2006...
Monsieur Ruffin Loukou.
Parce que depuis 2006, je travaille avec le ministère de la Justice, et la réforme pénitentiaire de 2006, dont il parle, qui a débouché en 2007 sur les assises pénitentiaires, j'ai eu l'honneur d'en être un des artisans. Je suis surpris et heureux de voir qu'il y avait un monsieur que je n'avais pas rencontré et qui travaillait au ministère de la Justice.
Conseiller juridique du ministre Luzolo Bambi.
J'ai travaillé avant même, parce que la réforme c'était avant monsieur Luzolo Bambi.
On l'a retrouvé.
Monsieur Luzolo Bambi est venu après et nous lui avons remis tous les documents de la réforme. Donc la réforme n'a pas été, la réforme pénitentiaire dont il fait allusion, n'a pas été faite sous le ministère de monsieur Luzolo Bambi.
De 2006 à 2009. Ouais. C'est avant nous autres.
Ouais. Oui, je voulais juste faire cette précision. La réforme a commencé en 2006. Elle s'est terminée en juillet 2007 avec les assises pénitentiaires qui ont vu la participation du ministre de la Justice qui a clôturé, de l'ambassadeur de l'Union, de la délégation de l'Union européenne, de l'ambassadeur de Monsieur Swing à l'époque qui était le représentant spécial du secrétaire général, et puis de Monsieur Louis Michel. En plus de la coopération française qui à l'époque avait envoyé des experts qui étaient venus et qui ont participé aux travaux des assises pénitentiaires.
Voilà.
En plus de rapports.
Lorsque Maître Erifin Louko dit que il a participé, n'est-ce pas, à des différentes réunions, et il a constaté que la réforme était butée contre les problèmes de la gestion des finances par les partenaires extérieurs.
Pas à ma connaissance, parce qu'il n'a jamais été question de finances dans le cadre de cette réforme. La réforme, une réforme pénitentiaire, une réforme structurelle, ce n'est pas une réforme qui se fait par la construction. La construction des prisons n'est pas une réforme. C'est une prérogative normale, régalienne, ordinaire, que tout État doit faire. On ne réforme pas en construisant des prisons. C'est un problème de diagnostic et d'analyse.
La gestion des finances.
Il n'y a pas eu de finance, justement. C'est juste... Attendez. On met d'abord en place l'architecture juridique. On définit les structures, les fonctions, on définit un plan stratégique. Et à partir de ce moment, les finances arrivent. Il n'a jamais été question, en tout cas au niveau de la MONUSCO, il n'a jamais été question de finance. Il n'y a pas eu de finance jusqu'au moment où je parle. Et je parle sous le contrôle des autorités de la MONUSCO dans le cadre de cette réforme.
Et quelle est cette réforme-là qui peut se faire et réussir sans, sans financement?
Maintenant, je pense que si on n'est pas d'accord sur l'analyse, si on fait une erreur d'analyse, il est clair qu'on va faire, si le diagnostic est faux, la thérapeutique ne pourra pas suivre. Donc je pense que le premier problème, c'est de comprendre que quand on parle de réforme pénitentiaire, on ne parle pas du tout de construction de prison. On parle de la mise en place d'une administration, d'une architecture administrative, d'une organisation, de la définition d'une chaîne de commandement, de la distribution des rôles des tâches, et puis de la mise en place d'une administration pénitentiaire professionnalisée, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Les recommandations selon les standards internationaux en matière d'administration pénitentiaire disent clairement que les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, le corps de l'administration pénitentiaire, doit être un corps professionnalisé. Ce sont les fonctionnaires du statut général de la fonction publique au Congo qui sont affectés dans l'administration pénitentiaire. De 1960 à nos jours, le Congo n'a pas formé plus de 100 personnes dans le domaine pénitentiaire. C'est quand même des problèmes qui vont au-delà. Ce n'est pas une question de construction. Une prison, ce n'est pas quatre murs. Ce n'est pas quatre étoiles. C'est pas ça qui fait la réforme. Maintenant, le travail qui a été fait avec le ministère de la Justice entre 2006 et 2007, c'était non seulement de définir le cadre stratégique, le cadre législatif, le cadre organisationnel, et de décliner un plan.
Avec ce qui a été fait, vous avez défini ces
cadres. Absolument, tout ça a été fait dans des documents et les documents ont été remis au ministre de la Justice. Ils sont encore là au niveau du ministère de la Justice et sont encore disponibles au niveau de nos archives.
Merci.
Maintenant, sur l'autre aspect, il faut faire beaucoup attention quand on parle d'administration pénitentiaire. Les détenus, on ne peut pas les prendre d'une province et les transférer dans une autre province. C'est une violation des droits, notamment les droits de visite pour les détenus. Pour éviter les évasions, la solution, ce n'est pas de transférer. C'est d'avoir un système de sécurité performant, avec des personnels bien formés, avec des structures qui peuvent pour garder les détenus et pour les contenir pendant le temps de détention défini par la loi. Le transfèrement des détenus obéit à des règles. On ne peut pas régler la question des évasions par ça. D'autant plus que si on fait l'analyse beaucoup plus approfondie, on sait très bien que les prisons au Congo ont été construites à partir de 1905. Et la dernière prison qui a été construite, quelque chose sur laquelle on devrait évaluer peut-être la MONUSCO, la prison de Nolo a été faite, reconstruite, pas réhabilitée, reconstruite. Elle a été détruite et reconstruite totalement par un projet de la MONUSCO. Elle a été ouverte en 2011.
Alors que c'est dans les prérogatives du gouvernement.
Absolument. Ce n'est même pas, d'ailleurs, dans les prérogatives de la MONUSCO, parce que nous n'avons pas ce mandat-là, nous ne faisons pas de l'humanitaire. Merci. Donc cette prison-là, la prison militaire de Ndolo a été reconstruite selon un projet de la MONUSCO. Entièrement reconstruite avec un projet d'autosuffisance alimentaire, avec 6 mois de formation au préalable de 150 militaires qui ont été injectés, avec une formation in situ au niveau de cet établissement et l'accompagnement avec cette prison-là continue. Nous avons injecté dans le cadre...
Ça se passe comment?
Ben ça, c'est la meilleure prison.
Les prisonniers vivent dans des bonnes conditions, ils sont nourris,
évidemment,
ils sont soignés,
évidemment,
ils sont suivis.
Évidemment, cette prison a été construite pour 500 places. Elle en compte aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, 1672.
Voilà, c'est déjà un problème.
Absolument. Et cette question aussi est une question qui était prévue dans le projet. On avait dit, il faudrait à la limite mettre un système de numerus clausus qui permettrait d'avoir une prison modèle, vraiment qui montrerait que si les moyens sont mis et que si l'administration de la prison existe véritablement, s'il y a une capacité de management des directeurs de prison, s'il y a une capacité de gestion des agents qui sont dans la prison, ça peut marcher. Merci. Malheureusement, il n'y a pas de numerus clausus et aujourd'hui nous sommes dans une situation de surpopulation.
Merci Maître Rifin Loukou. Vous avez suivi M. Youssoufa Ndiaye qui est étonné des informations que vous avez données, notamment sur la gestion financière par les partenaires extérieurs et aussi sur la construction et la réhabilitation des prisons.
Non, mais non, vous constatez que vous aviez raison de poser cette question. Parce que lorsqu'il dit que non, il n'a pas été question du tout des financements. Mais Ndolo a été construite comment? La prison Ndolo. Je vais vous rappeler qu'après cette réforme, j'ai dit de 2006 à 2009, après cette réforme que le ministère de la Justice a initiée, avec l'appui des partenaires, c'est comme ça que je parle d'une façon limpide, avec l'appui des partenaires. Qu'est-ce qui a suivi? L'Union Européenne a libéré des fonds et a construit le programme Régisco. Régisco, à l'est du pays, a construit une prison à Beni, une prison à Bounia, et ces prisons sont opérationnelles aujourd'hui. Et les fonds qui ont été gérés par la MONUSCO, voilà, n'a donné qu'un seul résultat, la prison de Ndolo. Et c'est après mille et un tiraillements.
Mais quand on sait que cela n'était pas dans les prérogatives de la MONUSCO.
Non, c'est pas une question. Non, attends, doucement. C'est pas une question des prérogatives de la MONUSCO. Lorsqu'une résolution renouvelle le mandat de la MONUSCO chez nous, elle est définie, la résolution, les attributions qu'elle renforce ou qu'elle dote la MONUSCO pour le nouveau mandat de 12 mois. Et dans la dernière résolution, c'est clair que la MONUSCO, non seulement dans la consolidation de la paix, mais en particulier l'appui du gouvernement congolais du côté justice et du côté de la réforme de l'administration pénitentiaire. Ça, c'était depuis 2006, donc cette réforme est en veilleuse, j'ai dit en veilleuse.
Ça veut dire que la MONUSCO construit les prisons?
Non, c'est-à-dire, lorsqu'on dit appui, la MONUSCO, elle a le financement, gère des fonds, et puis, c'est dire pour moi entendre que non, la MONUSCO n'est pas humanitaire ici. Or, la MONUSCO coordonne toutes les agences humanitaires des Nations Unies qui sont au Congo. Alors, donc, pour dire tout simplement, avec précision, que je parle des choses que je connais très bien. Toutes les réunions, d'ailleurs, je suis étonné que lui estime qu'il ne me connaît pas. Je suis étonné, on s'est rencontré à un moment dans une mission, et je peux vous donner les détails. Lorsque vous dites que vous ne me connaissez
voilà,
pas, donc c'est extraordinaire.
L'effet relevé dans ces rapports au mapping de la MONUSCO.
C'est connu que nos prisons, lorsqu'il dit que c'est construit avant l'époque coloniale, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est une nouveauté? La MONUSCO a trouvé cette telle chose.
Voilà.
Et vous vous rappeliez que depuis 1965, Mobutu prend le pouvoir, jusqu'à 1980, Mobutu avait rêvé de n'avoir plus au Congo, donc les Zaïre sans prison. Que nous tous, nous allons nous transformer, nous n'irons plus en prison. Et là, s'il s'est trompé, il a abandonné toutes les prisons, il n'a plus réhabilité aucune des prisons.
Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Mahdi en province orientale.
Comme le facteur province orientale, ville de Mangue. Hier, c'était l'évasion. Aujourd'hui, c'est la santé. Est-il important de construire une prison et de la réaménager sans la prise en charge nourriture et santé? À qui est combinée la responsabilité d'une prison entre les ministères de l'Intérieur et de la Santé? Pourquoi le gouvernement oublie sa propre loi sur l'administration pénitentiaire? Car même les criminels sont des êtres humains comme tout autre. Pourquoi tous les rapports au Congo viennent des étrangers dans tous les domaines?
Oui, maître.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question-là qui est très intéressante. D'abord, je rappelle que la réforme pénitentiaire n'a pas tourné autour de la construction des prisons. Premier palier, c'était la réhabilitation de celles qui devaient l'être. Deuxième palier, c'était la réforme de l'administration administrative et sanitaire en ce qui concerne la santé des prisonniers. Et troisième palier, c'était la resocialisation des prisonniers. Et enfin, les métiers qu'ils devaient pratiquer dans les prisons lorsqu'ils quittaient. D'abord, ils ont été utiles à la prison, notamment dans l'agriculture, dans la menuiserie et consorts. Tout ça, ce sont les paliers de la réforme. Donc la réforme n'a rien à voir seulement avec, n'est-ce pas, la construction, la réhabilitation. Ensuite, par rapport à la question, à qui est comme la responsabilité des prisons, c'est à l'État congolais. Et dans l'État congolais, c'est au ministère de la Justice. Parce que la prison a des policiers de la question, c'est-à-dire la surveillance, a des médecins, des infirmiers de l'État. Donc, presque plusieurs ministères se recoupent en ce qui concerne la gestion des prisons. Mais la gestion principale des prisons, c'est le gouvernement congolais au travers de son ministère de la Justice. Mais en ce qui concerne, maintenant, il a demandé de la ratio de détenus, la ratio de détenus. Il y a des catégories de prisons. Il y a les prisons, les maisons d'arrêt et les maisons de détention. Et il y a celles qui sont nationales et celles qui sont provinciales. Par exemple, la prison de Kassapa, c'est une prison nationale. Donc, dans notre nomenclature, c'est le pouvoir central qui s'occupe de cette prison-là. Mais dans tous les cas, de toutes nos prisons qui sont dans la province, c'est le ministère de la Justice envoie les frais de fonctionnement et en particulier la ration, mais il y a aussi d'autres prisons où le gouvernorat envoie la ration, n'est-ce pas? Et d'autres partenaires comme le CICR et les églises ont une attribution également, comme ce sont des établissements publics, une attribution de nourrir également conjointement avec le gouvernement.
Aujourd'hui, avec le processus de décentralisation, qui gère les prisons, surtout en province? Est-ce que c'est l'exécutif
provincial ou c'est le gouvernement central? Il y a la catégorie des prisons nationales. Je viens de vous dire, Luzoum, Boulouo et Kassapa sont des prisons nationales. Et d'autres prisons, comme des territoires, sont des prisons locales. Vous voyez, par exemple, Angenga et Kafela, Chikankasa, ça sont des prisons nationales, donc, qui dépendent directement du ministère de la Justice nationale. Et les prisons autres que celles-là, donc elles sont nombreuses, dans la catégorie des prisons nationales, il y a d'autres qui sont locales et qui sont donc gérées.
Et celle de Mandaka?
Celle de Mandaka, c'est une prison en principe nationale. Cette prison elle est sur la liste des prisons nationales donc qui sont prises en charge directement par le ministère de la Justice.
Et vous avez suivi le ministre provincial de la Justice qui dit que ça fait c'est depuis le mois de novembre dernier que cette prison n'a pas reçu des subventions.
Non mais donc je ne sais pas quel est l'état actuellement dans les quelques mois ici qui sont passés, mais sinon le ministère de la Justice recevait des subsides et envoyait à tous les directeurs des prisons. Vous vous rappelez une fois ici sur Radio Okapi, nous avons eu des conflits, en fait des propos, des malentendus avec les différents gouverneurs parce que le ministère central de la justice envoyait directement de l'argent au directeur de prison parce que cela dépendait non, en ce qui concerne cette charge-là, il dépendait du gouvernement central et merci. Nous envoyons les gouverneurs pour estimer que non, il fallait passer par eux alors qu'ils ont également des attributions, n'est-ce pas, pénitentiaires en ce qui concerne les contrôles mensuels sur la ration et la santé des prisonniers. Les gouverneurs de provinces ont des attributions et ils doivent les faire respecter.
Monsieur Youssoufa Ndiaye, il y a Pépé Lissungi de Kisangani en province orientale qui dit que cette déclaration a des connotations, donc la déclaration de la MONUSCO a des connotations politiques car ce n'est pas aujourd'hui que ces conditions existent au Congo et les responsables des institutions tant nationales qu'internationales les savent bien. Si le gouvernement congolais ne fait rien, pourquoi ces structures préfèrent toujours nous amener d'autres projets mettant à côté les projets de construction de prisons qui est aussi capital pour la vie des prisonniers? Cette déclaration est considérée par moi comme une goutte d'eau dans un océan.
Je voudrais simplement aller au-delà de ces réactions en répondant. Je pense qu'il y a un certain nombre de précisions qu'il faudra faire au préalable. Le texte central qui définit la typologie des prisons en République démocratique du Congo, c'est l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965. Contrairement à ce que je viens d'entendre tout à l'heure, il n'y a pas deux types de prisons au Congo, il y en a quatre. Si on y ajoute les prisons militaires, ça fait cinq. L'ordonnance 344 dit très bien qu'il y a des prisons centrales, des prisons de district, des prisons de police et des camps de détention. Il y a en plus des prisons militaires, il y en a trois. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, reconstruite celle de Kinshasa. Il y a la prison militaire de Kinshasa, de Ndolo, celle de Sinkakasa dans le Bas-Congo qui n'existe plus, qui est détruite, et celle de Angenga qui est en voie, d'ici juin, d'après les informations que j'ai, d'être ouverte. Les maisons d'arrêt, dans l'ordonnance 344, sont toujours annexées à des prisons centrales. Elles n'ont pas d'existence propre en tant que telles. Et je parle, je cite un texte, qui est l'ordonnance 344 qui le dit. Maintenant, le problème, c'est que, très clairement, dans la constitution de la République démocratique du Congo, il a été dit qu'il y a des compétences concurrentes dans la gestion des établissements pénitentiaires. Et les compétences concurrentes concernent tous les établissements qui ne sont pas des prisons centrales et qui ne sont pas des camps de détention. La différence entre les prisons centrales et les camps de détention, c'est que les prisons centrales, ce sont des établissements mixtes, sur lesquels sont annexées des maisons d'arrêt qui peuvent détenir aussi bien des détenus condamnés que des détenus prévenus.
Alors que les camps de détention... Comment vous expliquez le fait que vous êtes des partenaires et vous travaillez sur base des mêmes textes, mais apparemment vous en avez une interprétation différente?
Je ne suis pas en train d'interpréter un texte, je suis en train de citer un texte. Je dis bien, encore une fois, je répète, que l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965 dit bien qu'il y a quatre types de prisons et sur les prisons centrales sont annexées, à chaque prison centrale est annexée une maison d'arrêt. On n'a pas, donc c'est prison de centrale, prison de district, prison de police, prison de territoire et puis des annexes aux prisons centrales qui sont des maisons d'arrêt, ce qui en fait des établissements mixtes qui peuvent détenir à la fois aussi bien des prévenus que des condamnés. Compétences concurrentes, c'est toutes les prisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, compétences concurrentes, toutes les prisons en dehors des prisons centrales et des camps de détention qui relèvent. Et c'est l'article 203 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui
merci, qui nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kinshasa, Monsieur Youssoufa.
Pascal Kitenge, depuis la commune de Lemba à Kinshasa. L'état piteux dans lequel se trouvent les maisons carcérales dans notre pays frise l'animalité et nous fait penser très souvent au sépulcre anticipé. C'est l'expression de la régression dans la gestion des droits de l'homme dans notre pays, car le gouvernement passe tout son temps à parler de la refondation de l'état des droits, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais malheureusement, sans créer les conditions nécessaires pour la réhabilitation, la protection et l'humanisation de ces derniers. Parce que prétendre faire quelque chose et son contraire, en réalité, c'est ne rien faire.
Voilà, ça nous permet de passer à la deuxième question de notre débat. Que faire pour améliorer les conditions carcérales en RDC, M. Youssouf Ndiaye?
Comme il a été dit dans le communiqué, je pense que tout ce qu'on ferait si on ne réforme pas en profondeur le système pénitentiaire, ce serait une sorte d'emplâtre sur la jambe de bois.
Réformer c'est... en profondeur, ça qu'est-ce signifie... que vous, voulez, vous attendez par là?
Ça signifie aujourd'hui, si on fait l'analyse de la situation organisationnelle de l'administration pénitentiaire, il y a beaucoup de problèmes. Le personnel doit avoir un statut particulier, différent du statut général de la fonction publique, parce que c'est quand même des spécialistes. Dans tous les pays du monde, le personnel de l'administration pénitentiaire est considéré comme un personnel spécialisé, comme les personnels de police ou les personnels des forces armées. Et c'est en plus de surcroît une recommandation des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. L'autre élément, c'est qu'une administration de surcroît pénitentiaire doit reposer sur une architecture organisationnelle claire. Nous sommes dans un pays, continent, avec 227 prisons, dont, comme je l'ai dit tout à l'heure, 120 sont fonctionnelles, qui nécessitent d'avoir une structure architecturale organisationnelle forte qui permette d'établir une chaîne de commandement.
Donc une administration efficace.
Au niveau, non, c'est pas l'efficacité. Je pense que c'est d'abord les structures. Au niveau de la structuration de l'administration pénitentiaire, il doit y avoir une autorité pénitentiaire responsable devant l'autorité politique de la gestion des établissements pénitentiaires. Ça, c'est un seul élément. La réforme va beaucoup plus en profondeur. Si vous me donnerez le temps tout à l'heure, peut-être de développer.
Merci, Maître Ruffin Lecour. Que faire pour améliorer les conditions carcérales en RDC?
Bon, c'est dire pour moi d'écouter ce langage très fort qui nous donne beaucoup trop de leçons pendant que le mal est connu. Le mal est tellement connu que, tous nos partenaires, n'est-ce pas, nous ont trouvés dans cet état ici. Nous leur avons posé le problème. Quel problème?
nous pouvons nous prendre en charge, mais nous avons un problème de financement. Vous voyez, par exemple, pour les élections.
Les financements.
Non, pas pour les élections.
Vous avez parlé des moins de 1% du budget national qui est affecté aux prisons.
Oui, mais l'état dans lequel se trouvent nos finances publiques, nous n'avons pas assez pour toutes les urgences. On n'a pas assez pour toutes
les urgences. Le premier facteur, c'est les financements,
À part les financements, d'abord, principalement les financements, ensuite, les hommes, parce qu'évidemment, il faut former. Bon, lorsque vous me voyez insister sur le rôle d'un partenaire important comme la MONUSCO, c'est pas un partenaire quelconque. Nous sommes membres des Nations Unies. Et lorsque nous réclamons nos droits par rapport à un certain nombre, n'est-ce pas, des résolutions qui ont été, n'est-ce pas, prises par les conseils de sécurité, c'est donc légitimement que la RDC dit non, la MONUSCO ne fait pas assez. C'est par exemple, on peut donner l'exemple de la brigade qui est arrivée ici. Si la population dit que non, la brigade ne fait pas assez, parce que la résolution des Nations Unies qui a, n'est-ce pas, mis en place cette brigade a dit que vous ferez ceci et ceci. Donc, lorsqu'on ne voit pas cette brigade faire la chose pour laquelle elle est là, on doit dénoncer ça. C'est la même chose en ce qui concerne le financement. Les gouvernements n'envoient pas assez. Et lorsque on parle qu'on va libérer, les conditionnalités font que vous vous attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne vient pas. Donc, bref, la réforme de l'administration pénitentiaire en EDC est en cours. Elle est, n'est-ce pas, elle est bloquée par le problème de financement.
Voilà.
Parce que comme elle a été initiée par le gouvernement congolais avec des promesses qu'il y aura, et puis je vais clôturer en disant que non, nous n'allons pas, dans cette réforme-là, le gouvernement s'était engagé de ne pas réhabiliter toutes les prisons, elles sont nombreuses. Et vous demandez à ceux de moyens. Mais la politique des régions pénitentiaires, comme je les ai citées, 3-4 régions pénitentiaires, nous permet d'avoir des prisons pilotes. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Canada. Donc, pas de prisons dans chaque territoire. Les régions pénitentiaires nous permettent d'avoir des prisons pilotes qui, comme on l'a dit, je ne reviens pas sur la sémantique. Est-ce que chez nous, il y a encore des prisons de police, comme la loi l'a prévu? Les prisons qui sont opérationnelles chez nous sont de deux catégories. Les prisons centrales et les prisons locaux que vous appelez les prisons district, les prisons saisies. Donc, merci. C'est pour dire tout simplement que non. La loi, j'étais conseiller juridique de l'administration, disons, cette loi-là, j'ai la maîtrise. Donc si cette question-là, je ne peux pas aller dans la polémique, c'est pour dire tout simplement, nous sommes venus contribuer en ce qui concerne la situation piteuse dans laquelle se trouvent nos prisons. Nous nous battons à l'est du pays. Il y a déjà des prisons qui ont été construites. À Kinshasa, il y a la prison de Ndolo qui a été réhabilitée. Il y a la prison de Sekatenelo Banondo qui a été construite. Donc
merci,
cette réforme permet que les choses avancent, peut-être lentement, mais elle est en cours. Et ça, c'est, n'est-ce pas, à l'honneur du gouvernement congolais, du peuple congolais, et également de nos partenaires, voilà, aussi qui,
je rappelle qu'on devait avoir Maître Jean Bouillou, qui est cadre de la majorité présidentielle, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Malheureusement, on n'a pas réussi à les joindre. Monsieur Moustapha Ndiaye, dans les propos de Monsieur Youssouf Ndiaye, voilà, dans les propos de Monsieur Bambara, il a dit qu'il y a des appuis, n'est-ce pas, qui ont été apportés par la MONUSCO dans ces différentes prisons qui connaissent des problèmes. Ne pensez-vous pas qu'une approche globale serait plus efficace que des appuis ponctuels? Ça serait aussi votre conclusion.
Oui, mais tout à fait. Il est clair, justement, ce que je disais, que la solution, elle ne peut être que globale, que holistique. Devant une crise aussi profonde, qui va bien au-delà des infrastructures, parce que les infrastructures, ce n'est pas un problème, mais c'est la gestion de ces infrastructures. C'est la capacité, justement, de les opérationnaliser. C'est la professionnalisation du personnel qui est en charge. C'est la mise en place d'un dispositif stratégique sécuritaire.
Merci, on n'a plus assez de temps. Merci, Maître Rifin Louko, votre conclusion.
Ces propositions-là, si on n'a pas de moyens, toutes ces propositions-là, même si vous avez les professionnels les plus professionnels, il n'aura rien à faire parce qu'il n'a pas de moyens. Il faut que le gouvernement donne assez de moyens, le Parlement libère de moyens, le gouvernement, mais en particulier les partenaires qui ont des financements pour ça.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui est à la technique, à Kéline Côté et Samuel Kachak qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Julien Nyamouni. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon suite au programme sur Radio Capi.